Et nous allons passer une semaine en pleine nature et nous avons en plus la chance d'avoir le soleil. Aujourd'hui, jour de tournage, je suis en compagnie de la dame au chapeau qui n'a pas failli à sa tradition. Elle est avec son chapeau, il faut dire que ça cogne un peu, donc c'est un bon plan. Nous allons parcourir tout au long de cette semaine ici à Saint-Laurent-sur-Gorre le jardin de Liliane. Et qui dit Liliane, dit Liliane Broussaudier qui est avec nous. Merci de nous accueillir ici, ce jardin de Liliane. On ne le présente plus, son nom en tous les cas résonne familièrement, je pense, aux oreilles de tous les Limousins. Et il ne pas d'hier, on revient dans les années 80.
Oui, fin 82-83, j'ai commencé à planter les premiers arbres en face de la maison, histoire d'avoir quelques arbres seulement. Il n'était pas du tout question de faire un jardin.
Alors, quand on vient ici, on rentre par le portail, on ne voit pas de maison. Donc, a priori, la nature s'est bien imposée en tout cas.
La maison est plus haut. Donc, c'est vrai qu'avant de la maison, je voyais vraiment le jardin. Là, maintenant, je ne vois plus.
Alors, ça a commencé petit à petit, sans aucune volonté d'en faire quelque chose de particulier, encore moins un jardin à visiter pour le grand public. Alors, comment ça s'est passé? On se prend de passion? Vous étiez une passionnée de nature au départ ou ça s'est fait peu à peu, justement?
Oui, j'ai toujours été passionnée de nature. Moi, j'étais toujours. Il n'y a qu'à la campagne que j'étais bien. En ville, je suis née à Limoges, je suis restée à Limoges, mais ce n'était pas ma tasse de thé. Et j'ai vu une petite annonce un jour sur le Populaire et un monsieur qui vendait des plantes parce que lui faisait ses semis, qui étaient à Drounazac. Et donc j'ai acheté les premiers arbres, c'est à lui que je les ai achetés, et des arbres rares. Donc tous des noms évidemment qui m'étaient totalement inconnus. J'ai mis le pied là-dedans, je connaissais absolument rien. Donc après, il a fallu se documenter, en savoir un peu plus. Et c'est comme ça que ça a commencé.
Et ça ne s'est jamais arrêté.
Parce qu'il y a eu des rencontres. Et donc les rencontres m'ont permis après de faire le jardin, de l'ouvrir, parce que j'aurais été toute seule dans mon coin, j'aurais jamais fait ça.
Mais on voit que vous faites beaucoup de choses, vous faites quasiment tout vous-même ici, on l'expliquera. Et puis, vous êtes de Limoges, pourquoi avoir choisi Saint-Laurent-sur-Gorre pour vous poser?
Non, ça c'était pour le travail au départ. Hein. Donc on était là depuis 1971 et j'ai commencé le jardin en 82.
Voilà. Donc voilà, pas un choix particulier, mais en tout cas, le calme, vous l'avez trouvé ici, c'est certain.
Ah oui, oui, c'est sûr.
Alors, on va parler de la nature, évidemment, tout au long de cette semaine. On va déambuler, on passera de site en site. Vous nous ferez découvrir un petit peu des choses, même si le principe, c'est d'inviter tous nos amis à venir le découvrir par eux-mêmes, puisque c'est vraiment un jardin, j'ai envie de dire, des cinq sens. Là, on va en parler, mais vraiment, il faut venir le découvrir, le respirer, le voir, le toucher, presque le goûter également.
Oui, absolument. Il y a beaucoup de choses que je fais sentir, beaucoup de feuilles, que je fais toucher aussi, parce qu'il y en a qui sont rêches, il y en a qui sont lisses, douces. Il y a beaucoup de choses à voir. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, il y a peu de fleurs dans la partie haute. Mais voilà, ça fait partie aussi, c'est l'été, donc on n'a pas les mêmes végétations qu'au printemps. Chaque saison est différente. Et quelquefois, ça déstabilise pas mal certains visiteurs.
Alors que justement, l'intérêt, c'est peut-être de venir quatre fois dans l'année pour voir un petit peu comment évolue ce jardin, comment évolue la nature et elle se comporte.
Ah, ça, ce serait l'idéal, effectivement. Parce que les gens sont habitués maintenant, en ville, à voir des massifs qui sont changés tous les deux mois. Les fleurs ne fanent plus, il n'y a pas de graines, et donc on ne sait plus ce que c'est.
Et vous, ça vous fait mal au cœur quand on voit de belles plantations qu'on arrache alors qu'elles sont tout à fait en état?
Ah bah un petit peu, oui.
Vous ne les accueillez pas ici, il n'y a pas un orphelinat pour ces fleurs malheureuses?
Ils ne les donnent pas, non.
Le public qui vient ici, c'est quoi? C'est des familles, les enfants sont très intéressés. On sait que les musées, les choses, on touche à rien, ça ne les intéresse pas. Ici, justement, on peut toucher, on peut sentir, c'est ce qui fait la force du jardin de Liliane.
Il y a quand même beaucoup plus de femmes que de famille et que d'hommes dans le jardin.
Elles viennent prendre des idées pour le jardin à la maison après?
Oui, puis je pense qu'elles sont plus intéressées par les jardins. Souvent, elles viennent avec une amie, avec la maman, avec... Voilà, mais plus entre femmes, beaucoup plus.
Parce que c'est aussi un cadre très reposant. Ici, c'est un petit peu ce qui fait sa force. Vous en profitez au quotidien. Voilà, on est là pour découvrir des choses, en apprendre sans doute, mais aussi passer un moment calme et zen.
Ah oui, tout à fait. Alors c'est vrai qu'en été, au mois d'août, là, on a un peu plus de famille. Et c'est vrai que les gens avec les enfants sont surpris qu'on arrive justement, que j'arrive à les intéresser au jardin. Parce que c'est pas toujours évident.
Une encyclopédie vivante, on va le voir. Et avec pour volonté, bien sûr, de partager votre savoir, ce que vous avez appris, puisque vous l'avez finalement appris au fur et à mesure. Vous avez envie que tout ça se transmette et pourquoi pas donner le goût à quelqu'un d'autre de suivre vos pas et de concocter un autre jardin de Liliane, peut-être ailleurs qu'en Limousin.
Oui, c'est tout à fait. Alors c'est vrai, je suis pas du tout botaniste. Moi, il faut pas me demander trop de détails sur certaines choses. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les fleurs, la couleur, la texture, les odeurs, voilà.
Les petites histoires.
Ah bah oui, un petit peu quand même.
Et on va les partager ensemble tout au long de la semaine, la preuve, évidemment, dès demain. Et c'est notre deuxième rendez-vous que nous partageons cette semaine ici à Saint-Laurent-sur-Gorre. Nous sommes installés au jardin de Liliane. Nous sommes en compagnie de Liliane Broussaudier qui est la propriétaire des lieux avec ses premières plantations au début des années 80. On en a parlé ensemble dans notre précédent rendez-vous. On va évidemment maintenant, on a parlé d'histoire, mais maintenant on va parcourir et on va découvrir quelques-uns parce qu'il y en a mille et un. Je pense qu'on pourrait passer 5, 6, 10 heures ici à nous raconter toutes ces plantes. Mais quelques éléments comme ça pour donner envie à nos amis de venir vous rejoindre. Là, par exemple, on est sous un arbre assez curieux.
Ça, c'est un Staphylea, Staphylea pinnata, qui fait des grappes de fleurs blanches qui pendent un peu, c'est joli, et qui fait des fruits après assez particuliers, et on l'appelle l'arbre coucougnette.
L'arbre à coucougnette, parce qu'effectivement, si on récupère ses fruits, donc à l'intérieur de ses fruits, quand on les ouvre...
Oui, on a une graine dans chaque... Ça fait deux poches et on a une graine dans chacune.
Là, on en a trouvé un avec une graine dans chaque, ce qui n'est pas toujours le cas.
Ben, des fois, il y a une graine d'un côté, pas de l'autre, ou deux d'un côté, ben, ce sont pas toujours normales.
C'est les ondes des portables qui doivent encore créer des choses bizarres. Et puis la nature qui parfois fait des choses curieuses. Là, on est au milieu de lierre, par exemple, et au milieu de ce lierre, on a une curiosité.
Il y a une ronce qui est arrivée, c'est des lierres panachés, il y a deux variétés, et une ronce qui s'est panachée aussi, qui ne pousse pas, elle fait 50 cm à peine, elle va pas plus loin, alors que d'habitude, les ronces envahissent, et donc elle s'est panaché de la même couleur que les lierres.
Et ça, c'est... Alors, si on passe à côté, on ne la voit même pas. C'est vraiment... Il faut prendre cette habitude de regarder la nature, de se poser, sinon on ne la voit pas.
Ah, ben ça, c'est vrai que c'est aussi une habitude. Ben, en tant que jardinier, on est toujours les yeux par terre. Hein.
Ouais. Et alors là, en l'occurrence, on panache de façon naturelle. Mais vous pouvez peut-être, du coup, essayer d'influencer de façon très naturelle sur la nature. Vous avez des espoirs?
Je veux y croire, mais c'est pas toujours sûr. Là, j'ai un hortensia Zorro qui a des tiges noires et qui a une fleur bleue, mais d'un bleu absolument pétard, que tout le monde trouve superbe, sauf moi.
Voilà. Moi, j'ai dit, c'est magnifique. On va dire, oui, bien sûr.
Bah oui, parce que à côté, vous avez du violine, vous avez des roses, d'autres couleurs qui vont pas vraiment avec ce bleu. Et donc, je voudrais bien qu'il devienne un peu violet.
Et donc, comment on fait?
Je vais lui mettre au printemps un peu de chaud. Pour voir.
Il faut tester, on est un peu biologiste, un peu magicien, comme ça on essaye et puis on est parfois un peu surpris du résultat.
On verra, ouais. Je ne suis pas sûre.
Rendez-vous dans quelques mois hein, pour ceux qui viendront vous rejoindre. Là on est, en l'occurrence on ne l'a pas précisé, un petit peu dans le sous-bois parce qu'il fait très chaud, on l'a dit hier dans notre premier rendez-vous. Alors, c'est l'intérêt aussi de ce jardin ici, c'est que justement on a une partie en sous-bois, on a des parties vraiment en plein soleil, ça permet de panacher, de mettre des choses très différentes.
Ah oui, effectivement. Et ça permet aussi de travailler à des endroits, quand il fait très chaud, on peut travailler en sous-bois alors qu'on ne peut pas travailler en plein soleil. Mais c'est vrai que ça permet d'avoir une gamme un peu plus étendue.
On n'a pas parlé de la taille de ce jardin au total.
8000 mètres carrés.
Ça en fait quand même un petit peu. Ça veut dire qu'on a un ordre d'idée du nombre d'espèces, d'essences que vous avez ici représentées.
Oh, avec les rosiers, il y en a plus de 400, 450 peut-être, je ne sais pas.
Donc 450, ça veut dire que chaque année, on amène un petit peu de nouveautés, de sang neuf.
Oui, bien sûr. Surtout là, avec les changements climatiques, on est obligé. Il faut aller chercher ce qui va résister le plus au sec. Donc, ça va faire des nouveautés.
Alors justement, chercher où ? On a parlé du tout début de cette aventure qui s'est fait finalement vraiment en 100% Limousin. Aujourd'hui, on continue d'être dans le local où il y a des plantes, des arbustes qui viennent de bien au-delà ?
Non, tout ne vient pas d'ici. J'ai de fait des plantes par an au jardin, mais j'achète également à des pépiniéristes. Il y en a qui sont dans la région, mais il y en a qui sont un petit peu plus loin, comme la Creuse, comme la vers Bergerac, ou après des endroits un petit peu plus loin où on achète par correspondance. Par exemple, les fougères, je commence à avoir une collection maintenant de fougères, justement en sous-bois. Et alors, ça est une pépinière, je vais lui faire un peu de pub, mais le nom est tellement joli, ça s'appelle « Écoute s'il pleut
». Un peu de poésie. Alors, on va continuer de cheminer un petit peu. On a parlé des fougères, par exemple. Vous avez installé des fougères et finalement, la nature est bien faite puisque la fougère attire la fougère aussi.
Oui, parce que maintenant, y a des fougères indigènes qui sont arrivées, qui sont énormes. Et puis, et elles se mettent pas vraiment à la place où vous voulez, elles se mettent où elles veulent.
Ouais. Ça, c'est une chose, c'est une belle règle de vie aussi de se dire que la nature fait quand même un petit peu ce qu'elle veut.
Absolument. Ouais. vous faites rien, vous.
Bon, vous faites quand même beaucoup parce que tout ça reste effectivement, quand on le regarde, très naturel, mais il y a, je suppose, beaucoup de travail.
Alors, c'est toute l'année.
Ouais.
Surtout que cette année, il n'a pas fait froid, donc j'étais tout le temps au jardin pratiquement. Et c'est jusqu'au soir, jusqu'à la nuit.
On s'en plaint pas vraiment ?
Non, c'est la nuit qui me fait monter. Voilà.
On continue, nous, de cheminer. Par exemple, derrière nous, on a de jolies variétés. Voilà, on passe des choses très, très vertes à des belles fleurs.
Ça, c'est une variété d'hortensia. Enfin, ce n'est pas un hortensia. C'est de la même famille que l'hortensia. C'est un hydrangea arborescent. Et donc, ce sont des variétés qui ne gèlent pas. Donc, on a beaucoup moins de problèmes qu'avec l'hortensia classique. Eux, ils fleurissent sur le bois de l'année.
Donc, ça veut dire qu'en gros, ici, il y a tellement de diversité que toute l'année, on a forcément des fleurs ?
Oh, pratiquement, puisqu'on a... Enfin, il y a quand même un arrêt en plein hiver, hein, il ne faut pas non plus exagérer. Mais on a les hélébores, toutes les hélébores que vous voyez, toutes ces feuilles-là, c'est la famille des roses de Noël. Et donc là, elles vont commencer quelquefois en février, janvier, ça dépend. L'année dernière, elles ont commencé très tôt. Et la floraison va s'échelonner sur 4 mois à peu près. Donc c'est intéressant aussi.
Oui, on dit le printemps, c'est beau, tout fleurit, mais finalement il se passe des choses toute l'année, même en plein hiver. Les jardins vivent, bougent, évoluent et c'est à venir découvrir.
Ah ben heureusement. Et en plus, on a des arbustes qui fleurissent en plein hiver. Et les arbustes qui fleurissent en plein hiver sont très très parfumés. Parce qu'ils n'ont pas des fleurs très colorées, donc ils sont obligés d'avoir autre chose pour attirer les pollinisateurs. Donc c'est le parfum. Et quand vous montez, vous dites « Ah !» Tiens, lui il est fleuri et il suffit de quelques fleurs. Ça c'est super.
On les sent depuis la maison et on descend les voir.
Pas tout à fait quand même, mais c'est vraiment ça, c'est un régal aussi d'avoir des fleurs effectivement en hiver.
C'est notre troisième rendez-vous balade. Ici, à Saint-Laurent-sur-Gorre, nous sommes installés tout au long de cette semaine au jardin de Liliane avec notre guide, Liliane Broussaudier, qui eh bien, nous fait visiter ces lieux qu'elle aménage avec amour et passion depuis le début des années 80 maintenant. On continue notre balade peut-être. Alors là, on est à côté de...
Une ronce, rubus. Une ronce qui fait des fleurs blanches, à fleurs simples, on dirait des papillons. Elles sont assez grandes et c'est très joli. Donc une ronce qui n'a pas d'épines.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Je cherchais les épines, il n'y en a pas. Donc, qui dit ronce ne dit pas forcément épine.
Vous avez une ronce ici qui est une ronce rampante qui fait un couvre-sol, qui est aussi différente. Et là, on en a une qui a quelques épines et qui va faire des fleurs comme une rose. Donc ça, c'est très très vaste comme.
Oui, quand on a tendance à dire ronce, c'est vrai que c'est une généralité et on se rend compte en venant ici que on ne connaît que très 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 peu de choses finalement sur cette nature et la nature sauvage notamment.
Et déjà moi, je n'en ai pas beaucoup par rapport à tout ce qui existe.
Et ça fait déjà une bien belle balade, croyez-moi. Après, vous avez fait un petit peu de déco aussi, mais très peu hein, finalement. C'est vraiment à 90-95%, c'est la nature ici.
Oui, hein. Oui, oui. De toute façon, on ne peut pas faire trop de déco puisqu'ici, c'est inondable. Hein. Toute la partie basse, vous pouvez avoir 1 mètre d'eau, même au mois de juillet. Là, ça fait quelques temps que ce n'est pas arrivé, mais ça peut arriver n'importe quand.
Et quand on est passionné comme vous, qu'on se réveille et qu'on voit tout ça sous l'eau, c'est un vrai crève-cœur.
Ah bah là, vous remontez, vous pleurez, puis vous ne revenez pas au jardin pendant 15 jours.
En attendant que ça sèche, puisqu'on parle d'eau, ce qui est important aussi, c'est qu'ici, vous n'arrosez pas ou quasiment pas. Ça, c'est une règle pour aussi prouver que finalement, la nature n'a pas besoin d'intervention de l'homme pour exister.
Là, j'arrose pas, j'arrose uniquement mes petits pots qui sont en pépinière et les plantes qui sont à replanter. Les plantes éventuellement, comme cette année qui fait très chaud, qui ont été plantées dans l'année et qui n'a pas eu de suivi. Mais sinon, dans l'ensemble, il faut que les plantes se débrouillent.
Ça veut dire que, d'une manière générale, le grand public arrose trop, parce qu'on a tous tendance à se dire, là, comme une journée comme aujourd'hui, où on va avoir 35 degrés, on se dit tous ce soir, oh là, il faut absolument arroser. Pour vous, c'est un mauvais geste, un mauvais réflexe ?
Oui, par exemple, dans les arbres et arbustes, quand vous arrosez souvent, votre arbre, au lieu de faire une racine qui va aller très profond, vos racines vont être beaucoup plus superficielles.
Pour chercher l'eau en surface.
Et elles vont demander l'eau parce qu'elles savent qu'elles vont en avoir, elles vont en redemander, et ainsi de suite. Donc, elles vont avoir du mal à s'ancrer. Vous prenez, par exemple, un chêne qui a poussé tout seul. Vous regardez dessus, vous avez 10 cm. Dessous, vous avez une racine qui en fait 30. Elle y va toute seule chercher l'eau. Vous ne l'avez pas arrosé. Et si vous l'arrosez, vous faites l'essai d'arroser, et ben vous aurez des racines beaucoup plus superficielles et il aura plus de mal à s'enraciner.
Vous voyez, on vient ici, on découvre des choses et on apprend des petites choses très techniques pour le quotidien. Donc voilà pour ce petit conseil. Donc là, on a encore des petites espèces surprenantes autour de nous. Ah oui, effectivement.
Alors, il y a des graminées. Il y a celle-ci qui a un fruit assez particulier. Alors, ça vous fait penser à quoi, vous ?
Je me souviens plus, une arme du Moyen-Âge.
Ah, comme moi, voilà.
Ah. On a la même imagination, donc.
Oui, parce qu'il y en a un qui me parle d'étoiles, d'oursins. Et moi, je suis beaucoup plus guerrière. Donc...
Ça doit être ça, alors. Finalement, on se retrouve. Donc, on a bien fait de se rencontrer pour ce reportage. Des fougères encore à côté.
Des fougères, donc vous voyez, celle-ci, on dirait qu'on l'a lustrée. Elle est très brillante.
On dirait presque des plantes artificielles.
Presque. C'est vrai qu'il y a quand même des fougères qui sont absolument sublimes et c'est des variétés qui sont toutes assez différentes. Il faut attendre au moins 3-4 ans pour avoir vraiment des belles touffes. Surtout ici, moi j'ai une terre qui est très légère, donc il faut attendre quelques années pour qu'elle soit vraiment présentable.
Et c'est vrai, quand on parle de ces plantes qu'on trouve de façon très naturelle dans les sous-bois, par exemple, un réflexe que l'on a tous, c'est tout ce qui pousse chez nous dans nos jardins. Qu'est-ce qu'on fait? On désherbe, on arrache, on coupe. C'est une anecdote notamment avec l'un de vos voisins.
Et oui, en principe, les gens ont tendance à arracher tout ce qui pousse tout seul. Hein.
On se dit ça vaut rien, c'est de la mauvaise herbe d'une manière générale, on met tout dans le même panier.
Exactement, donc c'est quelqu'un qui habite pas très loin, effectivement. Il est venu avec un petit groupe et puis on était en arrêt devant les salicaires. Donc c'est une plante violine qui pousse sur le bord des fossés et puis au bord de l'eau. Et il me dit, moi j'en ai partout dans le fond du pré, il me dit, moi je passe le fil. Alors je regarde, je lui dis, mais moi je les achète. Et alors maintenant, c'est un petit jeu entre nous. Quand on se voit chez le boulanger, il me dit, vous savez, cette année, elles sont belles, je les ai pas coupées. Et l'année dernière, il m'a mis une photo dans ma boîte aux lettres, une photo de ses salicaires. Et là, c'est là où vous êtes content parce que vous dites, j'en ai gagné. Hein.
On se dit, on a appris, on a transmis quelque chose.
Voilà, et il a compris le message et maintenant, il l'arrache plus, il garde.
Et d'une manière générale, je crois que c'est ça, c'est de retenir aussi que c'est pas parce que ça pousse dans la nature que c'est moche, que c'est nul, qu'au contraire, c'est peut-être des plantes très précieuses et il faut peut-être changer notre regard dessus.
Oui, absolument. Vous prenez les orties, c'est pareil. Hein.
Il y en a effectivement à l'entrée, on a tendance à se dire on s'approche pas, ça pique, ça gratte, on les laisse de côté, voire on les enlève. Alors qu'au contraire, si on prend le temps de les regarder.
Vous avez vu comme elles sont jolies, celles là-bas? On dirait de la dentelle. Ouais. Et je les laisse exprès pour les montrer. Alors moi, j'en mange beaucoup au printemps. Avec l'ail des ours, mais en plus au jardin il en faut parce qu'il y a un papillon qui ne se nourrit, la chenille ne se nourrit que d'orties. Donc il faut le garder, c'est bon pour le purin aussi, c'est bon pour beaucoup de choses.
Mais d'une manière générale, tout ce que produit la nature en règle générale a un intérêt quelque part.
Oui, si vous prenez la composition de l'ortie, c'est quand même une des plantes les plus intéressantes qu'il puisse y avoir. Qui a plus de vitamine C que l'orange, qui a plus de fer que ce que vous voulez. C'est vraiment une plante très très intéressante.
Alors je vois qu'au pied de certaines fougères ou de certains arbustes, vous avez disposé également, c'est quoi, c'est du buis?
Oh non, en fait c'est des morceaux de buis qui restent, mais enfin c'est un paillis, c'est histoire de pailler par rapport à la sécheresse. C'est dans les plantes qui ont été nouvellement installées, c'est comme les pauvres viburnums là qui demandent pas mal d'eau, ils vont faire la tête et donc j'essaye de les pailler au maximum.
Donc c'est ça aussi, c'est des petits conseils de se dire, quand on se dit il fait très chaud, je vais beaucoup arroser le soir et finalement il y a peut-être d'autres réflexes à avoir seront beaucoup plus efficaces.
Oui, et si on arrose, éventuellement on arrose une fois et puis après on paille.
Voilà pour les petits conseils, vous en aurez plein hein. En venant ici, on vous dira pas tout. Après c'est des choses qui vont vite, je prends des graines là, je les plante à la maison, combien de temps?
L'année prochaine vous aurez un petit plan, mais le plan ne fleurira que l'année d'après.
Il faut laisser aussi le temps au temps.
Ah oui, la patience, c'est une des principales qualités du jardinier, ce qui n'est pas toujours très facile.
Voilà. Et c'est notre quatrième et avant-dernier rendez-vous. Nous sommes installés au jardin de Liliane tout au long de cette semaine à Saint-Laurent-sur-Gorre en compagnie de Liliane, évidemment, Liliane Broussaudier. Peut-être l'occasion, Liliane, parce qu'on a beaucoup parlé des plantes, des fougères sur ces premiers épisodes, mais parler des arbres également, puisque les choses ont commencé finalement d'ailleurs avec des arbres pour vous, dont celui qui est à nos côtés.
Oui, les arbres pour moi, c'est quand même, ça a été la première chose, effectivement, c'est d'abord planter des arbres, après les arbustes et après les vivaces, hein, c'est petit à petit, parce que si on commence à l'envers, c'est un peu plus difficile.
Alors quand on dit, c'est le premier que j'ai planté, alors je n'ose imaginer quelle taille il faisait quand il a été planté celui-là.
Oh, il faisait peut-être 50 cm ou 60. Hein.
Et là?
C'est un cryptomeria japonica, et ça, donc c'est un conifère qui est très très haut, je ne sais pas, il fait plus de 15 mètres. Oui.
Au bas mot. Et ils sont nombreux autour, avec une particularité, c'est que ce sont des deux ou des multitroncs.
Oui, ici, il y a beaucoup d'arbres qui poussent avec plusieurs troncs. Ginkgo biloba en a plusieurs. Les tulipiers de Chine ou de Virginie en ont trois gros. J'ai un platane qui en a six. Enfin, il y en a partout.
Et c'est vrai qu'on en a déjà vu comme ça dans la nature et on ne sait pas finalement pourquoi ce phénomène se produit.
Non, je ne sais pas. Est-ce que c'est parce que je n'arrose pas et que peut-être au départ ils souffrent un peu, qu'ils font plusieurs troncs? J'ai un ami, là, l'arboretum de Chabanais, qui lui taille pour en avoir plusieurs, il ne repousse qu'un.
Il vient demander des conseils à Liliane.
Non, mais ça ne marche pas. Et ici, il pousse systématiquement avec plusieurs troncs. Donc, je ne sais pas du tout. C'est un peu bizarre.
Et c'est une curiosité en tout cas à venir découvrir lorsque l'on se balade ici. On va continuer d'avancer.
Les scolopendres, il y en a en Limousin. Vous en trouvez dans les forêts. On a tous les cyclamens qui commencent, ça va être couvert de petites fleurs roses. Et suivant, par exemple, là, ils sont roses. Et s'il y a un blanc qui se ressème, je vais le récupérer et le mettre dans mon coin où il y a des blancs.
On ne fait pas de mélange de couleurs ici.
Ah, et, les couleurs, c'est bien particulier.
Ah, Liliane est très à cheval sur les couleurs. On ne contrôle pas beaucoup la nature, on l'a dit, mais on a parfois quand même des avis et des goûts esthétiques.
Ah oui, oh, bah, il faut bien, sinon ce ne serait pas drôle. Hein.
Faut pas laisser la nature tout faire non plus. Il faut y apporter un petit peu sa touche et faire que ce jardin vous ressemble et à votre personnalité. Alors, on a un joli arbuste également.
Bah, ça, c'est un érable pauvre, un érable japonais. Et vous voyez, il en reste la moitié parce que l'année dernière, suite à la sécheresse, il a verticillose et puis j'en ai coupé en pot. Donc j'espère que ce qui reste va pouvoir tenir un peu le choc.
Parce qu'il est joli, ce serait dommage qu'il disparaisse. Ça veut dire que si jamais il disparaît, par exemple, l'envie c'est d'en remettre un ou on se dit bah tant pis, il a fait son temps, c'est une page qui se tourne dans mon jardin et on passe à autre chose.
Non, ça je remets pas. Parce que justement, ça demande de l'humidité, de la fraîcheur qu'on n'a plus. Donc ça fait partie des variétés qu'on ne remet pas.
Puis c'est vrai que là, on parle d'humidité qu'on n'a plus. Parce qu'effectivement, le climat a beaucoup changé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le jardin tel que vous l'avez connu, vous, sur ces 10, 20, 30 dernières années, il va forcément évoluer et changer.
Ah oui, tout à fait. Là, par exemple, lui, quand il a été planté, donc il a plus de 20 ans. Hein. Il est petit, mais il a plus de 20 ans. Donc c'est vrai qu'on n'avait pas le climat qu'on a maintenant. C'était pas aussi sec. Et petit à petit... Ben, ça change.
Et c'est vrai qu'on se dit, on a tendance à dire on a eu un été ou un hiver extraordinaire cette année, mais malheureusement, ça risque de devenir une habitude. Finalement, il va falloir changer sa façon de voir les saisons.
J'ai l'impression, parce que regardez les hivers, on n'en a plus jusqu'à présent, mais quand il fait froid, c'est fin février. Donc tout est déjà en pousse et paf. On a plus quatre saisons comme avant. Bon, est-ce que ça va revenir? On ne sait pas, parce que là aussi, on n'est pas devin non plus. Donc il faut jongler, il faut arriver à mettre des plantes un peu différentes, tester, il faut faire des essais.
Et ça veut aussi peut-être changer les moments où l'on plante. On avait toujours les habitudes, les anciens qui disaient il faut le faire à tel moment, à telle lune, à telle date. Peut-être que ça aussi, c'est des choses qui vont être à revoir.
Moi, je pense qu'il faut faire vraiment au moment où, quand on voit par exemple si c'est mouillé, si c'est le bon moment, ben on y va et puis on n'attend pas. On n'attend pas trop parce qu'on ne sait pas ce que l'avenir va nous donner.
La donne a changé, donc découvrir. Oui, oui, oui. Donc là, on a une ronce Hypin, en revanche. Donc on va essayer de pas...
C'est un rosier, c'est un de mes bébés. Alors c'est un rosier qui a poussé tout seul. Donc petite fleur simple. Et après, voyez tous les fruits qu'il a pour l'automne. Ah. Tout ça, ça va devenir orange. Ici, il y a beaucoup de rosiers qui se ressèment. Une fois que vous avez un rosier liane ou des rosiers botaniques, ils se mélangent entre eux et vous avez des bébés qui arrivent. Le problème, c'est que pour voir ces bébés, il faut avoir un jardin un peu comme moi, un peu bordélique, parce que si vous avez un jardin trop propre, que vous êtes toujours en train de gratter, ben, c'est pas possible parce que vous allez le tuer au départ, alors qu'il va pousser petit à petit. Donc il faut être un peu paresseux au jardin pour avoir après ce genre de rosier.
Ça me va bien, ça, ce concept de paresse. C'est-à-dire quand on repart ici, parce que là, depuis que moi je suis là, voilà, on a touché, on a senti. Vous avez l'impression que quand on repart d'ici, on aura, même peut-être sans s'en rendre compte, un autre regard. C'est-à-dire qu'on aura plus tendance justement à frotter une feuille pour voir un petit peu ce qu'elle peut sentir. Et un autre regard sur la nature, peut-être dans notre jardin ou en forêt quand on se balade.
Ben j'espère, parce que c'est vrai qu'il faut apprendre aussi à regarder. Je pense qu'on a bien perdu l'habitude.
Il y a encore un peu de travail, ça passe notamment par les enfants. On l'a dit, c'est les femmes qui viennent le plus ici. Alors après, elles transmettent un petit peu à leurs enfants ou elles les invitent à venir ensuite?
C'est vrai que quand ils viennent, ils sont intéressés, ou alors quand il y a une classe ou une centre de loisirs. Et les enfants, ça les intéresse. Et justement, ils aiment toucher, ils aiment regarder, ils aiment sentir. Et c'est très drôle parce que les parfums, les enfants ne ressentent pas les parfums de la même façon que nous. Souvent, les adultes vont reculer devant un parfum, alors que l'enfant va trouver ça agréable.
On est un peu trop formaté?
Ben, je sais pas, mais c'est vrai que c'est très très bizarre.
Donc on vient en famille, comme ça on compare un petit peu ses points de vue.
Exactement.
Et puis on incite, voilà, les écoles, effectivement les centres de loisirs, c'est une activité sympa. Au lieu d'être devant les jeux vidéo, à s'abrutir devant la télé, ben ici on est au grand air et on profite de la nature et de toutes les richesses qu'elle nous offre.
Et c'est très bizarre parce que une année j'ai eu le centre aéré de Rochechouart et quand les enfants étaient là, il y a eu deux groupes, j'ai fait deux groupes de visites. C'est bien passé, ils sont assis tranquillement, ils ont fait un jeu, le temps qu'elles aillent chercher le goûter. Ils ont eu le goûter, ils sont restés assis. Alors là, les moniteurs, elles ne comprenaient rien. Ils disent, mais c'est pas possible, chez nous, on ne leur a pas donné le goûter, ils sont en train de hurler. Et ici, ils disent rien. Ben, je dis, oui, mais là, ils sont sur de la verdure, ils sont sur une pelouse. Autour de nous, on a des plantes Mais on n'a pas de couleurs agressives. On n'a pas de rouge, on n'a pas d'orange, on a des couleurs douces. Donc les enfants, ils sont calmes. Et si dans les cours d'école, on arrêtait de leur mettre du béton et qu'on leur mette un peu plus de pelouse, peut-être ce serait plus agréable pour eux.
En attendant, ils viennent profiter de l'effet magique de ce jardin ici. Et c'est déjà notre cinquième et dernière partie de reportage ici, installée à Saint-Laurent-sur-Gorre, au jardin de Liliane, avec la propriétaire Liliane Broussaudier, qui nous fait parcourir ces lieux magiques, pleins de secrets que vous viendrez découvrir, parce que évidemment, il est impossible de tout vous dire. Et puis, il vous faut l'image, il vous faut l'odeur. On l'a dit, c'est un jardin des cinq sens, donc évidemment, à découvrir. On vous donnera toutes les infos dans quelques minutes. Et on va parler presque de rendez-vous, de choses magiques ici. Il y a des secrets, mais il y a de la magie également, par exemple avec cette petite plante.
Donc ça, c'est l'alchemille ou l'alchémille, et il faut la mettre au soleil levant. Et le matin, quand vous arrivez, vous avez une perle de rosée au milieu, et souvent, sur chaque pointe, vous pouvez en avoir.
Mmh. Donc on voit que c'est un tout petit peu humide encore sur les pointes.
Ça, à photographier, c'est génial. Et donc, si vous touchez, ça fait comme du velours.
Ah oui, là, la sensation est très, très
alors,
douce.
Maintenant, elles sont fanées, il faut couper pour revoir ce feuillage doux, pour qu'elles renouvellent leur feuillage. Et alors, on l'appelle l'alchemille parce que les alchimistes allaient ramasser cette eau pour essayer de faire la pierre philosophale. Tout un programme.
Bon, ça n'a jamais vraiment marché. Finalement, ils vous les ont laissées, du coup. Elles sont maintenant à découvrir ici.
Et c'est vrai que c'est des diamants qui ne sont pas chers.
Et puis, on parle de magie, mais peut-être de magie noire également, puisque vous me parlez de sorcière. Me faites pas peur.
Non, ça, c'est un sédum. Alors, donc, vous voyez, il faut l'éplucher, la prendre, la mettre à l'envers et puis l'éplucher. Donc, vous avez une petite poudre qui s'en va.
Ouais.
Alors, les adultes aiment bien regarder, mais normalement, c'est plus pour les enfants.
Hein. Mais on est tous des grands-enfants.
Oui, absolument. Et alors, ça, c'est une plante qui va vous servir. Vous voyez, si je vous touche avec, donc c'est une plante qui est humide, hein, ça fait comme l'aloe vera, donc qui va vous aider pour les piqûres d'insectes, pour les petites brûlures. Ça arrête le sang très rapidement et ça vous enlève également, quand vous êtes coupé, quand vous avez fait une belle coupure, ça vous enlève le mal en même temps.
Et donc, c'est naturel, 100% bio.
Voilà, et c'est des plantes, c'est bien agréable d'avoir ça au jardin.
Parce et ça que... sent bon en plus.
Si, un petit parfum de chlorophylle, voilà. Ouais.
Puis alors vous me parlez, parce que bon, moi les sorcières, ça va m'empêcher de dormir, vous me parlez d'amour et d'arbres amoureux, ça je préfère. Finissons avec un peu de poésie. Ah, je crois que je l'ai repéré. Ils sont lassés et on vient les déranger.
Et là, il est en train de faire pareil. Alors, vous voyez l'écorce, comme elle est très belle.
Ouais.
Elle se desquame petit à petit. Elle s'en va en plaques, comme le platane, mais en faisant quand même de très, très jolis dessins. Et il faut plus de 20 ans pour arriver à ça. Parce qu'au départ, pendant presque 20 ans, eh bien, il va pas se desquamer, il va rester lisse. Et là, cette année, il est parti jusqu'en haut. Il est en train de nous faire une belle écorce.
Quand on dit qu'il ne fait pas bon vieillir, hein, c'est la preuve du contraire.
Ah oui, tout à fait. Pour lui, en tout cas, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Alors lui, il a tendance à faire des petites fentes comme ça. Alors la première fois qu'on voit ça, on est un petit peu surpris. Et puis, on dit, ça y est, il va mourir, il a un problème. Et non, il cicatrise tout seul. Vous voyez, il va faire ça. Voilà. Et donc, il est amoureux.
Donc ça, ce sont deux troncs
qui se sont soudés. Et il est en train de faire la même chose de l'autre côté. Et c'est très drôle parce que les branches, elles étaient à l'opposé, elles sont quand même revenues toutes les deux dans le même sens. C'est très, très bizarre.
Elles s'entendent bien.
Voilà, oui, ils avaient vraiment envie de revenir s'embrasser, là.
Voilà, cet arbre amoureux. On est à côté, là, encore d'une écorce qui est en plein travail.
Donc ça, c'est un érable, Acer griseum, et qui a une écorce vraiment très, très intéressante. Alors là, il est un petit peu plus vieux, il est plus ridé. Là-bas, on en a un autre un peu plus jeune et qui ressemble vraiment à des copeaux de chocolat. On voit la gourmande de chocolat.
C'est ça. On approche de 4 heures, hein, c'est pour ça. Et c'est vrai que si on n'y connaît rien, on se dit cet arbre, ce tronc, il est marron foncé, il est pelé de partout, il a chopé une maladie, il va mourir, alors que pas du tout.
Non, au contraire, là, c'est son intérêt. C'est ce qu'on appelle les arbres à écorce, hein, qui ont des belles écorces, justement, décoratives.
Apprenez à regarder la nature et puis vous enverrez un petit exemplaire, hein, sur le site qu'on n'a pas cité également, le site jardindeliliane.com, sur lequel on a déjà de jolies photos pour faire une pré-visite. Une visite que l'on va terminer où je sais qu'en tout début, quand on est arrivé, vous m'avez raconté également une petite anecdote parce que certaines plantes sont liées finalement à l'histoire et par exemple à l'histoire des moines.
Oui, on a le vitex donc, et on dit que qu'on faisait sécher les feuilles pour mettre dans les matelas ou faire des ceintures pour les moines, pour les rendre chastes. Et ce vitex s'appelle vitex annus Castus, agneau chaste.
Pour les femmes jalouses, tentez le coup.
Tout un programme. Alors après, ne me demandez pas si ça réussit.
Venez le tester, venez découvrir quelle est cette plante pour en acquérir un exemplaire dans le jardin. Et vous ne dites rien à monsieur ou à madame, ça marche dans les deux sens évidemment.
Alors pour terminer, je vais vous faire sentir un petit peu.
C'est très parfumé.
Une petite calamante.
Hein, calamante.
Calamante.
Parce qu'effectivement, il y a un côté mentholé.
Il y a un petit côté mentholé, oui. Alors après, on a aussi celle-ci, qui est une armoise.
Ah oui.
Odeur de camphre.
Mmh.
Hein, alors là, c'est pareil, il faut découvrir.
C'est étonnant parce que voilà, si on ne penche pas le nez, on ne sent rien du tout. Il faut vraiment frotter, mettre le nez dessus. Et c'est ces gestes-là que vous avez envie d'apprendre finalement, d'inculquer à ceux qui viennent vous voir, leur dire voilà. Touchez, n'ayez pas peur. On a parlé de l'ortie, par exemple,
oui,
mais c'est vrai que...
C'est moi qui leur montre, quand même, parce que, comme vous avez vu, l'aconite, qui est une plante toxique, il faut faire attention, quand même, avec ce qu'on touche, surtout aussi avec les enfants. Donc, il faut se méfier.
Oui, on dit la plante toxique, mais vous êtes arrangé pour les éloigner un petit peu. Donc, on peut venir en famille. Il n'y a pas de risque, évidemment.
Non, non, tout à fait. Donc là, on a une autre plante très parfumée. Vous allez reconnaître, si vous êtes gourmand.
Ça sent bon, mais...
La pizza.
Ah oui, exact. C'est énorme. C'est vrai.
Ça marche toujours. C'est l'origan.
Il a trois parfums sur 3 mètres, donc c'est énorme. Quand on a dit, hein, il y a 8000 mètres carrés ici, donc c'est dire la richesse de tout ce qu'on va pouvoir venir découvrir. On l'a compris, la nature fait très bien les choses. Sachez juste l'écouter, la regarder, l'apprécier, et puis découvrir ici les mille et une vertus, des histoires également, ce que l'on peut faire avec ces plantes, avec ces arbustes. Il y a mille et une choses à découvrir. On va terminer en donnant le numéro de téléphone, puisqu'on l'a dit, si on souhaite visiter toute l'année, c'est possible, en vous passant un petit coup de fil au préalable, au 05 55 48 14 29, et on vient ici à Saint-Laurent-sur-Gorre. On l'a dit déjà en début de semaine, c'est un havre de paix. On est coupé du monde, on est pas loin de la route, et pourtant on a l'impression d'être largement ailleurs, dans une petite bulle. C'est aussi ça l'effet magique de la nature et du jardin de Liliane.
Ah ben j'espère, c'est gentil en tout cas.